Chérie, fais-moi peur, une thématique antenne jusqu'au 7 mars sur les 3-8.
You have a dirty mind.
La pensée ferait-elle peur aujourd'hui? La peur est-elle toujours un objet de la pensée? Comment la philosophie l'appréhende-t-elle? Voici, pour esquisser quelques réponses, un entretien avec Jean-Christophe Holle, philosophe et enseignant à l'école d'art d'Aix-en-Provence. La peur, réflexe ou sentiment, en tout cas quelque chose qui se saisit de nos perceptions pour les transformer en idées, en l'occurrence souvent en idées noires. Bref, la peur, c'est de la pensée, au fond, comme la philosophie. Et pourtant, on serait tenté de postuler, et ça pourrait être le point de départ de notre discussion, que la fonction de la philosophie, c'est tantôt d'illuminer l'homme, ou bien d'éclairer le monde, et en tout cas dans les deux cas, de chasser par ses lumières les peurs qui rôde dans les ténèbres. Alors peut-être Jean, pour commencer, la philosophie, c'est de la pensée contre la peur?
Certainement, dans la tradition philosophique, la peur est effectivement ce contre quoi on pense, ou plus exactement, c'est ce qui fait cesser la pensée. C'est-à-dire que c'est la peur est une charge émotionnelle, c'est une dynamique émotionnelle qui est une dynamique d'urgence. Et la pensée, au contraire, c'est une installation dans le temps, c'est la constitution d'objets. Donc la pensée, c'est une articulation, la peur, c'est un peu une désarticulation. Et c'est quelque chose qui conduit immédiatement à l'action, à la réponse. La peur ne supporte pas le délai. La peur plus le délai, ça devient de l'angoisse. La peur appelle à une réponse qui cherche à être immédiate, qui est la fuite, qui est l'attaque, qui, au pire, quand on ne peut ni fuir ni attaquer, peut être la recherche d'une forme de l'évasion. Mais la peur appelle à l'immédiat. Par là, elle est évidemment contraire à la pensée, en tout cas à la raison, au déploiement de la raison. Il y a une autre dimension, me semble-t-il, à ça, qui est la dimension un peu essentielle de la peur. C'est-à-dire que la peur n'est pas seulement occasionnelle, en tout cas chez l'homme. Elle est constitutivement présente. Non pas du tout au sens de la trouille, mais au sens de l'inquiétude face à nos propres limites, au sens où nous sommes dans un monde, nous êtres humains, qui est un monde non stable, non clos, non fini, non achevé. Nous ne sommes pas, la phrase célèbre le dit pour l'animal dans son milieu, comme de l'eau dans de l'eau. Nous sommes dans un monde que nous construisons et que nous construisons aussi intellectuellement. Donc, dans ses limites, dans ses failles, dans son devenir existentiel, face à la mort. Donc la peur est aussi présente. Et de ce point de vue-là, elle est l'objet même de la philosophie. Elle est interne à la philosophie. Donc la peur est à la fois ce qui est à l'extérieur de la philosophie, insaisissable, ou ce contre quoi la philosophie se constitue. Et elle est à la fois, d'une certaine manière, le moteur interne, au moins d'un aspect de la philosophie, et qui peut être réactivé radicalement à l'intérieur de la philosophie. C'est ce que font d'une certaine manière des gens comme Nietzsche, c'est ce que fait quelqu'un comme Bataille, par exemple, où nous ne sommes pas devant la peur panique qui appelle à être sécurisé, mais le rappel de la peur dérangeante qui appelle à penser.
Mais cette peur ontologique dont tu parles, elle a souvent été traitée, si on peut dire, par la philosophie religieuse, qui est une forme de litanie contre la peur. Par contre, je commençais cette discussion par une forme de philosophie qui était plutôt, et tu l'as bien compris, liée à la philosophie des Lumières.
Ce que constitue la philosophie des Lumières, c'est une articulation entre la question de la raison et la question de la liberté politique, en particulier du sujet politique. C'est-à-dire que la philosophie de la lumière, c'est la philosophie du sujet qui, à la fois, constitue sa loi, donc articule la volonté à la raison. De ce point de vue-là, la peur est évidemment ce qui interdit au sujet de se constituer dans la loi. Mais ça, c'est à la limite plus une question actuelle, c'est-à-dire que c'est plus la question qui consiste à interroger la façon dont aujourd'hui, ce qu'on appelle depuis maintenant longtemps la politique de la peur est une politique de dissolution ou de négation du sujet citoyen en tant qu'il articule la volonté et la raison, c'est-à-dire en tant qu'il est lié à la loi.
Ça, si tu veux bien, on va y revenir tout à l'heure plus en détail. Pour l'instant, revenons sur cet obscur objet de la pensée qui a peut-être ceci de commun avec le désir que la peur se projette dans le futur. Non seulement nous avons peur de ce qui est, de ce qui se manifeste et de ses représentations, mais de surcroît, nous avons peur de ce qui pourrait être, de ce qui sera éventuellement. Peut-être sur cette idée de l'angoisse et de la différence entre l'angoisse et la peur, et en tout cas de la relation de la peur au temps.
D'une manière assez classique, la différence entre la peur et l'angoisse, c'est la différence entre l'émotion qui est suscitée par un danger relativement défini, qui est ciblé, que l'on peut en tout cas dénommer, par rapport auquel on peut agir, par exemple, soit par l'affrontement, soit par la fuite. Alors que l'angoisse, c'est cette peur qui est la peur de quelque chose d'indéfini, qui est la peur de quelque chose qui est à la limite indistinct, qui est innommable, qui ne peut pas se constituer comme un objet précis par rapport auquel une action soit possible. Alors évidemment, il y a une articulation temporelle entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'urgence de la peur, qui appelle à une situation, et il y a d'un autre côté l'état d'angoisse qui n'est plus de l'ordre de la situation ou de l'action, qui est plutôt de l'ordre de l'installation dans une durée. Mais ce qui constitue l'angoisse, c'est bien le caractère relativement déconstruit de la peur. C'est cette peur qui est partout, qui est tout le temps, qui n'a pas de nom, ou qui a un nom purement fantasmatique, qui a un nom fétiche. C'est la peur sous-jacente, et surtout, c'est la peur intériorisée. C'est-à-dire, c'est la peur qui n'est plus dehors, mais qui est dedans.
L'angoisse, une peur sans contour à laquelle l'art, dans toutes ses formes, a souvent cherché précisément à lui en donner un, de contours et des couleurs, et d'imaginer toutes sortes de monstres. Au fond, l'art, c'est une, aussi, comme la philosophie, une des formes de combat contre, alors peut-être pas la peur là, mais contre l'angoisse.
Oui, combat contre l'angoisse ou mise en jeu de l'angoisse dans un champ qui permet de la percevoir, de l'identifier, de la représenter, de la maîtriser, de la constituer comme un objet. Donc l'art, de ce point de vue-là, c'est effectivement l'une des démarches possibles de rencontre avec l'angoisse. Mais là, on est dans le champ de la représentation. Il me semble que la question artistique, au-delà de la question de l'objet représenté, c'est la question du travail des formes mêmes de l'espace et du temps qui sont constitutifs de notre perception. C'est-à-dire c'est l'entreprise poétique de réactiver notre relation à l'espace et au temps. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que la question de l'angoisse soit centrale à la question artistique. En tout cas, certainement pas d'une façon aussi immédiate que cela.
La peur, un objet de la pensée individuelle, consciente et inconsciente, mais aussi une relation de soi à l'autre. Ainsi, la peur de l'autre, bien évidemment, elle se nourrit avant tout de la peur de soi. On pourrait peut-être aborder maintenant la peur comme un phénomène de société. Et comme on a effleuré la peur du temps, parler du temps de la peur. La peur et le politique, peut-être dans cette relation de l'individu à la collectivité, ou comment le pouvoir s'articule avec la multitude.
Il y a beaucoup de choses là. La première chose, enfin moi j'aimerais distinguer peut-être plusieurs éléments dans ton omni-question. La première chose, c'est le rapport de soi à l'autre, qui est effectivement un élément constitutif de la peur. Mais peut-être que j'évoquerai par rapport à ça, parce que tu parlais aussi de la question artistique, que j'évoquerai Aristote et la vieille théorie aristotélicienne de la catharsis, dont on sait que chez Aristote, la tragédie, par exemple, a pour enjeu politique, éthique, ce qu'on peut appeler la catharsis, c'est-à-dire cette purge dont la définition oscille entre une définition de type religieuse, un processus de purification, et une définition médicale, qui est simplement la purge, au sens où on purge son organisme pour le purifier des toxines qui l'occupent. Donc cette question de la purge ou de la catharsis chez Aristote, elle les met en jeu deux passions, c'est la peur et la pitié. Et je crois qu'il est très intéressant de prendre en compte ces deux passions et de garder en tête ces deux passions en tant qu'elles sont, d'une part, les émotions mobilisables, c'est-à-dire celles qu'on peut mettre en jeu dans le dispositif de la relation artistique et poétique, celles qu'on peut mettre en œuvre, agiter, en quelque sorte travailler, celles avec lesquelles on peut jouer. Mais aussi qu'on se rende compte que ce qui se joue dans ces deux émotions, ou dans ces deux passions, c'est bien la relation à autrui. C'est-à-dire que la peur, c'est évidemment la peur pour soi, de ce qui vient d'en dehors de soi. Mais c'est en même temps quelque chose qui projette à l'extérieur de soi une peur de soi-même. Ce dont on a peur, c'est quand même d'abord du reflet de soi-même, ou d'une certaine part du reflet de soi. On a peur soit de ce qui nous est radicalement incompréhensible et étranger, soit au contraire de ce qui, d'une certaine façon, nous ressemble. Le plus efficace étant l'articulation des deux, le semblable étranger ou l'étranger semblable, qui est véritablement la figure, d'une certaine manière, la plus immédiatement terrifiante. Et la pitié, ça met exactement en jeu le même ressort, mais dans un autre sens. C'est-à-dire que la pitié, c'est bien la peur que l'on ressent pour l'autre ou par rapport à l'autre, dans ce que subit l'autre. Donc c'est une projection de soi à l'intérieur de l'autre. Et dans les deux cas, nous sommes dans ce jeu de la relation de soi à autrui. Voilà, ça, c'est la première part de ce que tu disais. Il y en a une seconde, qui est la façon dont cette relation du dedans et du dehors qui est en jeu dans la relation de moi à autrui peut se constituer à une échelle collective. C'est-à-dire que d'une certaine manière, par exemple dans la philosophie politique, la réponse à la peur, c'est la communauté politique. C'est ce qui se joue chez Hobbes, c'est ce qui se joue chez Spinoza. C'est-à-dire que la peur, c'est ce à quoi la communauté nous permet d'échapper ou ce qu'elle nous permet de régler. Or, ce qui est à l'encontre de la communauté, c'est bien en ce sens-là la multitude, c'est-à-dire la division, la multiplicité des individus sans tout, la précarité de la situation individuelle dans cet état d'isolement multiple. Et par rapport à quoi la communauté vient se constituer comme une protection, comme une totalité protectrice. protectrice qui peut devenir à son tour dangereuse, mais protectrice. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. Peut-être qu'on reviendra dessus après. Et le troisième élément que tu donnais,
C'était la relation du pouvoir à la multitude. Et peut-être voilà. Expliciter un peu la différence que tu fais dans ton raisonnement entre masse et multitude.
Ah. Non, ce serait plutôt, à la limite, la différence entre la question de la communauté et la façon dont la communauté se constitue, ou la façon dont elle se... Comment je pourrais dire ?
Ou dont elle se défait aujourd'hui.
Ou dont elle se défait. Non, la façon dont elle peut se constituer, par exemple, la communauté se constituant sous la figure du peuple. C'est la communauté politique qui se constitue dans sa relation au prince. Le peuple, c'est le binôme du prince. Il y a le prince et le peuple. Le peuple, c'est aussi ce qui se constitue face au prince, d'une certaine manière, comme un sujet politique, et qui va devenir le peuple citoyen dans l'expression en tant que sujet politique, se joue dans l'État, au travers de la démocratie. La masse, la constitution de la masse, ou l'histoire de la masse, c'est la façon dont le peuple, dans la modernité, se constitue comme une entité à l'âge industriel. C'est la façon dont on passe au XIXe siècle, ou entre le XVIIIe et le XIXe siècle, de l'âge des foules à l'âge des masses. Et c'est la façon dont la modernité s'est construite dans une pensée à la masse. Et il est bien, je crois, enfin, en tout cas, beaucoup de gens pensent aujourd'hui et réfléchissent à la décomposition des masses, et d'une certaine manière au ressurgissement des multitudes dans une organisation politique dans laquelle la figure du peuple est devenue une interrogation, n'est plus donnée, ne trouve plus à se constituer, à se substantialiser dans l'idée de la masse, mais doit se réinventer dans la diversité où l'individu reprend un rôle central.
Quel rôle, selon toi, jouent les médias, et peut-être particulièrement les masses médias, dans cette dissolution de la masse en multitude ? Et dans la peur, évidemment, hein, dans le climat de peur en général.
D'abord dans la peur. On a une... les masses médias sont des... comment je pourrais dire ? Comme machines, qui est une machine qui englobe immédiatement et instantanément dans une synchronie une totalité humaine qui tente à recouvrir le plus possible la population, la recouvre sur le terrain émotionnel. Et c'est sur le terrain émotionnel qu'elle constitue sa relation de puissance active sur la population ainsi massifiée. De ce point de vue-là, on connaît le texte maintenant relativement ancien, classique, puisqu'il date des années 20, d'Edward Bernays, que Bernard Stiegler cite volontiers, qui était le neveu de Freud et qui a écrit dans les années 20 des textes absolument essentiels sur la propagande. Entendons par propagande à la fois ce qu'on peut appeler la propagande au sens politique du terme, mais aussi la publicité, c'est-à-dire le mode de communication masse médiatique. La publicité est un modèle de la... est une forme, est un visage de la propagande. Et réciproquement, bien. Mais dans ces textes, ce que Bernays met en place, c'est bien... le jeu émotionnel. Et donc, d'une certaine manière, c'est bien ce double jeu sur la question de la peur et sur la question de la pitié dont on peut observer aujourd'hui massivement les effets. Alors, ce qui est intéressant de ce point de vue, c'est qu'on retrouve les deux passions aristotéliciennes, c'est-à-dire qu'on retrouve la façon d'agir sur soi et d'agir sur l'autre dans un dispositif spectaculaire qui était donné par Aristote, sauf que là où Aristote, nous sommes dans un dispositif qui a une entrée et une sortie, qui a un début et une fin, qui nous met dans la situation spécifique du spectacle dont on va pouvoir rediscuter après coup, qu'on va pouvoir penser comme une expérience spécifique. Là, on est dans une continuité sans début ni fin, sans commencement, sans achèvement, sans entrée et sans sortie. C'est-à-dire qu'on est complètement, comment je pourrais dire, immergé dans une immédiateté compulsive du déclenchement émotionnel entre la peur et la pitié. Et ce qui se joue là-dedans, c'est évidemment de la manipulation, et c'est évidemment du pouvoir, et c'est évidemment de l'absence de la citoyenneté. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, les masses médias, quand elles jouent ces fonctions, travaillent contre le citoyen, nous dépouillent de notre identité, de notre capacité à être citoyen.
Deuxième élément qui nous dépouille aussi en ce moment dans cette analyse de la manière dont la société se défait par la peur, c'est la crise des communautés, de la capacité de s'agréger les uns les autres dans un idéal commun, éventuellement un idéal dessiné contre la peur.
D'une certaine façon, on pourrait s'interroger sur la convergence de trois éléments complètement différents. Quand je dis trois éléments complètement différents, je veux dire qu'il n'est peut-être pas intéressant de vouloir les réduire à une seule causalité, mais plutôt de les penser comme un effet de système. Il y a d'un côté cet élément qui est l'entrée dans une société des médias, dans une société de l'information, dans une société du spectacle, qui est l'une des premières dimensions de cette complexité. Il y a une deuxième dimension qui est la façon dont nous sommes passés d'une société industrielle de type fordien qui constitue le peuple dans la figure de la masse à une société de type post-industriel dans laquelle se dissolvent ces configurations sociologiques à la fois parfaitement identifiées, dans lesquelles on pouvait se constituer par appartenance, et se constituer dans son identité par appartenance, et qui pouvaient développer en leur sein des formes de solidarité extrêmement fortes, en même temps qu'une véritable identité culturelle, qu'une véritable force et richesse culturelle. Donc ces structures collectives sont extrêmement affaiblies, parfois dissoute, et c'est bien l'un des éléments qui constitue ce qu'on appelle la multitude ou la question de la multitude. Mais il y a un troisième élément qui vient s'ajouter à ça, c'est le fait que nous sommes dans une société dont les structures constitutives sont en train de se modifier, c'est-à-dire que nous sommes rentrés dans la société en réseau. Or, la constitution du réseau, ou la forme du réseau, c'est une forme complètement nouvelle au sens où le réseau est une forme non territoriale. Le réseau n'est pas quelque chose qui se constitue comme un dedans par rapport à un dehors qui ne serait pas le réseau. Il n'y a pas dans le réseau de dedans ou de dehors.
C'est un non-lieu.
Ah.
Un utopos.
Alors, en tout cas, ça c'est une question, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le lieu du réseau et qu'est-ce qui constitue ce lieu du réseau? Je ne suis pas sûr qu'on peut dire que c'est un utopos. L'utopos n'est pas nécessairement un utopos. Par contre, il y a une spécificité de la constitution du lieu dans le réseau, du lieu réticulaire, et en particulier, il y a une trajectorialité du lieu en réseau qui s'oppose à l'immobilité constitutive et centrale du lieu dans l'espace physique, qui est un espace essentiellement en deux dimensions, plan et en profondeur. Or, dans cet espace plan et en profondeur, on a un rapport de la présence et de l'éloignement du proche et du lointain, du dedans et du dehors. Par exemple, il y a une figure de la frontière comme constitutive d'un espace défini et comme constitutive de l'identité de l'espace qui est profondément bouleversée par la stratégie du réseau. Parce que le réseau peut être plus ou moins dense. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne plus avoir de réseau, être situé dans un endroit où la densité du réseau est devenue tellement faible qu'elle s'est tellement raréfiée qu'il n'y en a plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en dehors du réseau comme si on avait franchi une frontière. La logique du réseau est une logique qui est une logique de boucle, qui se referme toujours sur elle-même et dans son propre fonctionnement. Et de ce point de vue-là, on n'est plus exactement dans la même structure. Ce qui constitue peut-être le réseau comme un utopos, en tout cas partiel, c'est que ce qui constitue le réseau, c'est des flux. Et que les flux, eux, sont un espace de circulation. Ils sont la circulation en tant que telle. Ce qui constitue le réseau, ce n'est pas qu'il y ait des pôles entre lesquels des flux circulent, c'est qu'il y ait des flux qui constituent les pôles comme étant l'espace de leur croisement ou de leur interaction avec le monde dans sa complexité, avec la personne, avec l'industrie, avec l'économie. Donc ce qui constitue le réseau, ce qui est produit par la circulation, ce sont des nœuds. Ce sont des nœuds d'échange, de passage. Donc nous sommes entrés dans un espace dans lequel le rapport du dedans et du dehors est en train de se transformer très profondément. De sorte qu'il me semble que la donnée aujourd'hui est celle-ci. D'un côté, une politique de la peur qui est une politique de la manipulation et qui est une tentative de mettre en question le rôle du citoyen. Je voudrais juste donner un exemple. Sans arrêt, nos gouvernements, par exemple aujourd'hui en France, ont une tonalité protectrice dans la façon de parler. Nous sommes là pour protéger les citoyens. Nous sommes là pour les rassurer. Le pire, relayé par la presse, c'est la question de la pédagogie. On n'a pas été assez pédagogue, on n'a pas assez bien expliqué quelque chose. On peut même avoir des situations qui votent mal. Les citoyens votent mal parce qu'ils n'ont pas compris. On les fait revoter, par exemple. C'est ce qui s'est passé pour le traité constitutionnel européen. C'est ahurissant que le vote de citoyens soit nié parce qu'on ne leur a pas bien expliqué les choses. Ça veut dire que ce ne sont plus des citoyens, qu'on ne les considère plus comme des citoyens. Et c'est d'ailleurs complètement lié à une espèce de problématique élitiste. N'est-ce pas ? Notre société produit des élites dont on peut remarquer les exploits permanents. Je veux dire, l'incompétence des élites est une démonstration quotidienne. Mais ces élites ont pour fonction première, non pas de manifester leur expertise, mais de dépouiller le citoyen de sa possibilité de décision politique. Donc ça, c'est le premier élément. La deuxième chose que je vois, c'est la précarisation. C'est-à-dire un individu isolé, éclaté, précarisé dans son existence, dans une difficulté de plus en plus grande de constituer sa vie sur la solidité d'une durée. On est devant un processus de dissolution et d'installation dans une insécurité qui est d'abord effectivement une insécurité matérielle et une insécurité sociale. Et le troisième élément, qui est de nature profondément différente, c'est la manière dont se transforme l'expérience même que nous faisons de l'espace et du temps dans nos sociétés. Et il me semble, dans une société en réseau, dans une société dans laquelle l'espace et le temps sont des données multidimensionnelles, des sociétés dans lesquelles on ne peut plus définir un ennemi ou une altérité fixe, mais où nous sommes à la fois partout et où le monde est entièrement chez nous, l'ensemble de ces trois éléments me semble constituer le terrain du jeu de la peur aujourd'hui.
Continuer sur cette réflexion, sur le terrain de jeu de la peur que semble bien être le politique aujourd'hui. Tu évoquais tout à l'heure ce rôle rassurant que se donnaient aujourd'hui nos démocraties ou nos démocratures. Après tout, on s'affirme souvent tout autre que ce que l'on est. Ainsi, la dictature se fonde sur la peur en s'affirmant dans la sécurité. Il semble bien que ça soit aujourd'hui de plus en plus le cas. Une sécurité promue au rang de condition de l'ordre. A contrario, le terrorisme apparaît comme une figure politique plus complexe que son intitulé ne le laisse paraître, quand il est souvent question d'idéal et d'utopie, pour lutter contre la peur, précisément, contre l'oppression, contre la dictature. Alors peut-être sur cette figure politique du terrorisme, Jean.
C'est évidemment devenu une figure centrale. C'est d'ailleurs très intéressant de se rendre compte que quand le mur de Berlin est tombé et il y a 20 ans et que l'on crée toute une série d'événements pour fêter cet anniversaire, l'anniversaire d'une frontière étanche qui était une limite à la liberté de circulation des personnes et des idées, on est dans un monde où les murs sont devenus innombrables, les murs réels qu'on tente de reconstituer entre les États-Unis et le Mexique, le mur scandaleux entre Israël et la Palestine. Les murs sont partout, y compris des murs, des murs et des filtres électroniques, comme les murs de nos propres frontières, nos frontières qui laissent passer l'argent, nos frontières qui laissent passer un certain type d'informations, mais pas n'importe lesquelles, qui les filtrent, mais nos frontières qui ne veulent pas laisser passer les hommes, qui bloquent les hommes. Donc on est dans une nouvelle vision de la frontière, qui n'est plus une, mais qui joue à des dimensions complètement différentes. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que la question du terrorisme est une question qui est devenue intéressante. D'abord parce qu'il n'y a plus d'adversaire défini. Nous ne sommes plus dans une situation de guerre, par exemple, d'un État avec un État. L'ennemi, l'adversaire, le modèle contre lequel le nôtre peut se constituer ou se définir, il n'est plus véritablement désignable. Par contre, il y a cette figure qui est celle du terrorisme, qui repose sur un fait constitutif essentiel, c'est son absence d'identité matérielle saisissable. C'est le fait que le terrorisme soit partout et qu'il soit nulle part. C'est que le terrorisme, c'est très exactement cet adversaire insaisissable. Et il n'est intéressant que parce qu'il est insaisissable. C'est-à-dire que ce qu'il est question de nourrir dans la figure du terrorisme, c'est bien cette présence sournoise, omnipotente, inquiétante. C'est que le terroriste est toujours dans notre dos. Et là, cette figure est très étrange. Elle est étrange d'abord parce qu'elle a toujours été une arme de propagande. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ce qu'on a appelé terroriste, ça a toujours été celui qui luttait contre le pouvoir d'État. Je veux dire qu'il ne faut quand même pas oublier que, par exemple, en France, le terroriste, il y a 60 ans, c'était le résistant. Il y a une histoire de l'appellation du terrorisme qui désigne celui que l'on veut déconsidérer dans l'action qui mène, et qui mène en général contre un État terroriste. Parce que l'une des choses dont on ne parle jamais dans le terrorisme, c'est la pratique de l'État terroriste. Or, la politique du terrorisme aujourd'hui se réfléchit dans une pratique de l'État terroriste. Pratique de l'État terroriste qui fait la guerre, par exemple, et qui fait la guerre à la chasse pour chasser le terroriste, mais y compris là où il n'est pas. C'est que comment, par exemple, l'État terroriste irakien est attaqué d'une manière terroriste par des États occidentaux sous prétexte qu'il y aurait des armes de destruction massive qui n'existent pas. C'est-à-dire le mensonge même du terrorisme pour justifier une action terroriste, c'est quand même intéressant. Le fait que dans nos actes de guerre, ce soit les populations civiles qui soient devenues les objets des actes de guerre, ce qui a une longue histoire qui commence à Guernica, mais qui est... C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement devant des débordements furieux d'une armée sur une population, on est devant une attaque visée d'une population par un acte militaire. Or ça, c'est quand même l'une des caractéristiques de nos pratiques, même si on dit le contraire, de nos pratiques militaires. Donc on est vraiment devant quelque chose de très ambigu dans le terrorisme. C'est-à-dire que celui qui parle beaucoup de terrorisme développe en général une politique terroriste. On l'a très bien vu avec Bush, on a très bien vu, y compris avec les lois antidémocratiques de Bush. Enfin, Guantanamo est d'une certaine manière une illustration très forte de cette espèce de logique qui fait que la lutte contre le terrorisme nourrit des comportements terroristes. Non pas au sens où il ne faudrait pas lutter contre le terrorisme, mais au sens où la constitution du terrorisme comme adversaire politique n'est pas innocente. Elle contient en elle-même un piège. Bien sûr que Al-Qaïda, sans doute, existe. En tout cas, je n'ai pas de moyen de dire qu'Al-Qaïda n'existe pas. Mais Al-Qaïda se nourrit exactement de la même chose, à l'envers, que nos États avec la question du terrorisme. Il y a, dans la pratique du terrorisme, il y a un énorme danger qui est, je crois, la logique interne de la lutte contre le terrorisme, qui potentiellement développe des politiques qui sont des politiques antidémocratiques, qui sont des politiques fortement sécuritaires, qui, à terme, sont des politiques qui ne peuvent pas ne pas mettre en question les droits et les protections des citoyens, et donc qui, à terme, déclenchent des comportements qui sont des comportements terroristes.
Qui développe ses politiques et sans doute aussi qui s'efforce de les légitimer. Jean, pour conclure, je pense qu'on n'a certainement pas tout dit sur la peur et la philosophie, mais on pourrait peut-être même, si tu veux bien, terminer par là, d'ailleurs, la peur, le dit, et puis le non-dit.
C'est la question du langage, c'est la question du non-dit ou du trop-dit. Il y a cette façon de traiter effectivement la peur par le non-dit, la peur dans le silence. Mais il y a aussi la façon de générer la peur par le trop-dit. La question du terrorisme, c'est un trop-dit. Je veux dire que la véritable attitude devant le terrorisme, ça devrait être une attitude de raison, ça devrait être une attitude d'analyse, ça devrait être l'attitude qui consiste à essayer de repérer les sources des comportements terroriste, d'apporter une réponse de raison à la question du terrorisme. Il est bien évident que quand on parle de terrorisme, on ne rentre pas dans une logique de l'analyse, mais dans une logique des mots fétiches. C'est-à-dire que c'est le mot terrorisme qui commence déjà à faire peur et qui alimente la question de la peur. Alors voilà, la peur, elle oscille effectivement entre le non-dit, le silence, par exemple ce qu'on ne dit pas des véritables sources ou des véritables causes de la peur, et puis le trop-dit ou le mot fétiche, le mot que l'on brandit au-delà de son sens pour terrifier, c'est la gesticulation fétiche de la figure terrifiante qui est aujourd'hui la figure de Ben Laden, mais qu'on retrouve dans des tas de choses de notre débat. Hein. C'est-à-dire que l'enflure extravagante de la question de la burqa aujourd'hui, qui est justement le vêtement qui cache la personne qui, parmi nous, est invisible, dont on ne voit que cette fente sombre et inquiétante derrière laquelle se cache une personne, symboliquement, c'est quand même étrange.
Merci Jean-Christophe Holl d'avoir partagé quelques lueurs sur cet obscur objet qu'est la peur. Peut-être pour conclure, quelques livres qu'on pourrait recommander pour prolonger cette réflexion. Tu as évoqué tout à l'heure Aristote, et puis on pourrait peut-être aussi citer Elias Canetti ou d'autres.
Oui, Elias Canetti dans Masse et puissance. Et puis un petit livre peut-être de Paolo Virno, qui est paru il y a quelques années et qui est plein d'éléments bien intéressants, qui s'appelle « Grammaire de la multitude » et qui reprend qui en tout cas regarde la question de la peur, mais bien au-delà, hein, de la question de la constitution politique du peuple et de la multitude d'une façon qui me semble extrêmement intéressante.
La philosophie et la peur. On écoutait Jean-Christophe Holl, enseignant à l'École d'art d'Aix-en-Provence.
Chérie, fais-moi peur. Une thématique à retrouver sur les ondes jusqu'au 7 mars. Tous les rendez-vous en mots et en sons sur le site des 3-8.
Oh, attention chérie, ça va couper.